La saison est arrivée. Le temps est venu pour les obligations d'épargne du Canada de vous présenter cette balado-diffusion.
Les Années-Lumière, édition du 8 novembre 2009. Les difficultés de la campagne de vaccination contre la grippe, le virus lui-même a sa part de responsabilité. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, ce reportage sur la grippe et son virus, je vais vous le proposer en début d'émission. Après quoi, nous aurons le courrier des années-lumière, une question sur les tatouages et leur permanence. Puis la chronique. Cette semaine, Laurent Drissen, notre astrophysicien, nous raconte les étranges visions de certains de ses collègues astrophysiciens. Deuxième heure, on la commence toujours en astrophysique avec vous, Sophie-André Blondin, et avec la violence du cosmos.
Un sursaut apparu dans les miroirs des télescopes témoigne de la mort violente d'une étoile massive 600 millions d'années seulement après le Big Bang. Ce sursaut gamma est le phénomène astronomique le plus lointain, donc le plus ancien jamais détecté.
Après le petit journal de la science, on passe à vous, Hugues de Roussan, et aux universités qui veulent montrer leur rôle dans la construction de la société du savoir.
Oui, Yannick, ça m'a donné l'occasion de rencontrer les étudiants qui seront nos ingénieurs de demain. Et croyez-moi, il ne manque ni de talent, ni d'imagination.
Et pour terminer l'émission, je recevrai l'auteur de la semaine, le docteur Alfred Spira, co-auteur du livre « La fertilité est-elle en danger ?» aux éditions La Découverte. La grippe, bien sûr. La campagne de vaccination a commencé au Canada. On en a énormément parlé cette semaine, surtout pour souligner les difficultés de sa mise en marche, les files d'attente, les désagréments de tout genre, les groupes prioritaires, les passe-droits, les difficultés d'approvisionnement ou de distribution et bien sûr, la relative pénurie de vaccins. Alors, je ne reviendrai pas sur l'aspect logistique de l'opération, mais sur le vaccin lui-même et sur les difficultés de sa fabrication. On sait que pour fabriquer un vaccin, il faut d'abord produire l'antigène qu'on y mettra, c'est-à-dire le principe actif du vaccin, et que, dans le cas du vaccin contre la grippe, qui est un vaccin qui remonte aux années 1940-1950 d'ailleurs, ce principe actif est obtenu, récolté, en cultivant le virus sur des œufs de poule fécondés, en fait donc sur l'embryon avant que l'œuf n'ait éclos. Mais dans le cas du virus de la grippe H1N1, qui comporte des éléments de virus humain, porcin et aviaire, c'est d'ailleurs sa grande caractéristique, eh bien dans le cas de ce virus, ça n'a pas tout à fait marché comme d'habitude. Les explications du docteur Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.
Généralement, ça prend un œuf nous donne deux doses, des fois trois. Mais ici, à cause de la composante aviaire, du moins on le croit, les œufs embryonnés nous ont montré en production industrielle que le taux de rendement était 35 % inférieur, probablement parce que la composante aviaire est toxique pour les œufs embryonnés du poulet.
Et donc on arrive à la production du vaccin actuel. S'il y a pénurie, c'est entre autres à cause de ce problème qu'on a rencontré en cours de route.
Tout à fait. On n'avait pas anticipé que la production serait 35 % inférieure à ce qui était attendu. Donc, au lieu de recruter 600 000 poules, on aurait dû recruter 800 000 et 60 000 coques, par exemple, pour produire beaucoup plus d'œufs, parce que là, ici, un œuf nous donne environ 1,5 doses au lieu des deux doses, des fois deux doses et demie habituelles.
Parce que le H1N1 est un virus qui a, comme vous dites, une composante aviaire. C'est ce qu'on soupçonne.
On soupçonne que la composante aviaire est capable d'induire une forme de toxicité à l'embryon du poulet. Et il y a des embryons qui décèdent ou qui sont trop toxiques pour être capables de faire du virus en quantité importante.
Et il faut dire qu'on avait observé ça il y a quelques années quand on craignait la fameuse grippe aviaire, qui était H5N1. Quand on la craignait, ce qui a fait peur beaucoup aux autorités sanitaires, c'est que on n'était pas capable de cultiver le H5N1 avec les méthodes traditionnelles sur des œufs de poule.
C'est tout à fait vrai. En fait, ça a été une des raisons de cri d'alarme majeur de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que le virus H5 était tellement toxique que l'embryon de poulet était immédiatement tué avant même de commencer à répliquer le virus. D'où l'importance de trouver une alternative, parce qu'il y a 8-9 ans, il y avait impossibilité même de faire un vaccin contre les H5N1. Et en 2003, à la suite du SRAS, là on a réalisé à quel point il était important de trouver une façon de régler ce problème-là. Et les compagnies pharmaceutiques se sont lancées dans la recherche de lignées cellulaires qui seraient capables, elles, de répliquer le virus pour faire des vaccins sans nécessairement être détruite par le virus lui-même qui serait trop toxique.
Donc, un virus, le H1N1, qui pousse mal sur les œufs et de plus qu'on a vu apparaître et qu'on a pu isoler 2 à 3 mois plus tard que les virus de la grippe saisonnière. Et ça, c'est une autre explication des difficultés d'approvisionnement qu'on connaît actuellement. Le docteur Richard Marchand.
Généralement, l'Organisation mondiale de la santé recueille les souches en janvier, février, mars, là, durant la période de grippe.
Donc, les souches qui se baladent dans le monde.
Qui se baladent dans le monde. Certaines années, on peut avoir jusqu'à 200 souches différentes. On va les comparer entre elles pour savoir lesquelles sont dominantes, lesquelles ont le risque de se propager, qui peuvent devenir pandémiques ou qui vont représenter les principales grippes saisonnières dans la saison à venir. Et là, une fois que cette sélection est faite, on va remettre aux compagnies pharmaceutiques qui font les vaccins ce qu'on appelle le seed stock, c'est-à-dire les souches de virus qui vont servir à la conception du vaccin contre la grippe saisonnière quelque part en avril.
Et ça, c'est quoi, 2-3 souches en général?
Généralement, c'est 2-3 souches. Il y a des années, sont identiques aux souches de l'année précédente, mais des fois, c'est des nouvelles souches. Des fois aussi, on se trompe, on fait des prédictions sur une mauvaise souche qui va devenir pandémique l'année suivante. Mais bref, on remet ça aux compagnies pharmaceutiques qui vont commencer la production en inoculant des œufs avec ces virus-là, quelque part au mois de mai ou juin. On va extraire, on va purifier. Maintenant, le virus ou le vaccin est un peu différent, c'est-à-dire qu'on prend le virus, on sépare la membrane qui contient les protéines H et N, on se débarrasse du reste du virus, on va purifier ces protéines-là et on va les traiter à plusieurs reprises avec différents produits de façon à s'assurer qu'il ne reste aucun virus vivant et que ces protéines-là sont très pures. Après ça, on va calibrer la quantité de protéines là-dedans pour déterminer avec précision les quantités qu'on va utiliser pour fabriquer les vaccins.
Donc, on cultive le virus est vivant, mais ensuite on le tue et on le fractionne, c'est ça. Donc, le vaccin contre la grippe, c'est ni un vaccin avec du virus vivant, ni un vaccin avec du virus entier.
C'est exactement ça. Ce sont des fractions de virus qui ont le moins de chances de donner de problèmes et qui, en même temps, sont capables d'induire la production d'anticorps qui vont empêcher le virus d'entrer dans les cellules et de nous infecter. C'est surtout le cas pour la protéine H, l'hémagglutinine. Agglutinine, c'est la protéine qui permet au virus de coller, de s'agglutiner sur la cellule pour ensuite l'infecter et pénétrer à l'intérieur. Donc ça, cette protéine H-là, c'est une protéine dont on veut s'assurer de l'activité immunogène.
Autre grande question, l'adjuvant. Là-dessus aussi, on a entendu et lu beaucoup de choses, et des choses parfois, je dirais, étonnantes. J'ai donc demandé au microbiologiste Richard Marchand de nous faire un petit adjuvant 101.
Ça remonte encore une fois aux années 40 et 50. On avait remarqué que quand on essayait de vacciner les jeunes enfants, surtout, le taux de réponse en anticorps protecteurs était relativement bas, en général de l'ordre de 20 %. Donc, il nous fallait trouver des méthodes pour améliorer la production de ces anticorps-là. Et on avait remarqué que certains produits, par exemple, étaient capables d'induire servir de booster, entre guillemets, pour cette réponse-là. Et on avait développé, par exemple, un adjuvant à base de poudre d'alun, d'oxyde d'aluminium, qui, quand il était mis avec les antigènes ou le virus, permettait d'avoir des réponses immunitaires nettement plus grandes. Donc, nous permettait de vacciner de jeunes enfants, surtout diphtérie, coqueluche, tétanos, par exemple, avec un meilleur taux de succès et de prévention. Mais l'utilisation de ces métaux lourds ou d'aluminium, par exemple, était questionnée un peu plus tard parce que ça restait, c'était pas nécessairement éliminé de l'organisme. Et dans les années 70, les compagnies pharmaceutiques ont décidé de regarder à des alternatives qui pourraient servir d'adjuvant, donc de booster immunitaire, et après avoir fait leur travail, d'être éliminés de l'organisme. Parce qu'un adjuvant, c'est d'abord et essentiellement un produit qui induit une mini-réponse inflammatoire locale pour attirer le système immunitaire et être capable d'enclencher une bonne réponse immunitaire. Donc, on veut cette réaction-là pendant un certain temps, puis après ça, on veut qu'elle disparaisse pour ne pas maintenir cet effet de stimulation. Or, on avait remarqué que certains corps gras des lipides, par exemple, ici, dans le cas de l'historique de l'adjuvant qu'on utilise, c'est un adjuvant, ce qu'on appelle un scalène, dérivé de l'huile d'écaille de poisson, avait la capacité d'induire une excellente réponse immunitaire. Et les compagnies vont développer à peu près chacun leur scalène, c'est-à-dire leur extrait, entre guillemets, d'huile de poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson là-dedans, là, c'est entièrement synthétique, mais ces produits-là ont cette capacité-là d'induire cette réponse immunitaire de façon importante, tout en étant, après quelques jours, résorbés, éliminés de l'organisme.
Après ces explications du docteur Richard Marchand de l'Institut de cardiologie de Montréal, je vous propose maintenant un voyage dans le temps, dans l'histoire des vaccins. Une histoire qui remonte au moins au 18e siècle, alors qu'on cherchait à lutter contre une des grandes maladies infectieuses auxquelles l'humanité a été confrontée, la variole. Après la pratique de l'inoculation, qui consistait à mettre volontairement en contact des personnes infectées et des personnes qui ne l'étaient pas, un Anglais appelé Jenner va inventer la vaccination, ou en tout cas une forme de vaccination contre la variole. On est à la toute fin du XVIIIe siècle, dans les années 1790. Historien de la médecine à l'Université du Québec à Montréal, Peter Keating raconte.
Les travaux de Jenner suivent en quelque sorte les travaux de son professeur, de son prof qui est John Hunter, qui est l'une des figures de proue de la médecine clinique du 18e siècle en Angleterre. Ce que font les gens comme Hunter et Jenner, c'est de faire une sorte d'histoire naturelle de la maladie. Ça fait partie d'un plus grand projet lancé le siècle précédent, de faire dresser le liste, le bilan et la description précise de toutes les maladies connues, de les traiter comme des phénomènes naturels. Et cela, c'est lancé en quelque sorte par le célèbre médecin Thomas Sydenham. Or, dans le foulée des travaux, Jenner fait beaucoup d'études concernant les maladies locales, y compris les rapports entre elles. Et c'est dans cette enquête sur les maladies et les rapports entre elles qu'il a l'idée d'utiliser une maladie pour combattre une autre. Voyons que deux maladies ne peuvent pas exister dans le même espace ou le même volume, du moins dans sa tête. C'est du moins l'idée. Alors, ce qu'il fait pour se démarquer de l'inoculation, c'est d'utiliser une maladie autre que la variole pour prémunir les enfants contre la variole, c'est-à-dire de les vacciner. Alors, il ne fait pas de vaccination au sens pasteurien, on va arriver là-dessus dans un instant, mais il utilise le vaccinia, qui est une maladie de la vache qui est similaire, mais pas identique, à la variole.
Donc une sorte de variole de la vache, d'ailleurs qu'on appelle le cowpox en anglais. Il y a cette observation sur les filles de ferme, les filles qui s'occupaient des vaches.
Voilà, il est d'un fait notoire que les filles trieuses, la vache, ont rarement des visages défigurés par la variole. Au fait que souvent, elles ont attrapé le variole de la vache, le vaccinia, le cowpox, en triant la vache. Et cette maladie se manifeste par des pustules qui se forment sur la main de ces filles. Or, ces filles sont, semble-t-il, immunisées contre la variole, et Jenner fait une enquête plus poussée, finalement, en prenant le sérum d'une pustule de cowpox d'une fille, il inocule l'enfant, et il réussit à immuniser l'enfant contre la variole.
Ah, donc, c'est une observation, de terrain assez fine, mais il y a quand même autour de ça une construction scientifique, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'une maladie peut en protéger une autre. Il y a aussi le fait que Jenner, notamment, va faire des statistiques, va faire des mesures, va voir qui est protégé, qui ne l'est pas. Il y a quand même quelque chose de plus qu'une bonne observation de terrain.
Oui, en fait, tout cela dépend de la notion d'une histoire naturelle des maladies et du fait que les maladies se distinguent des unes des autres étant spécifiques. Règle numéro un, c'est qu'il n'y a pas une maladie générale, il n'y a que des maladies spécifiques. Deuxième, règle générale de cette nouvelle médecine clinique, c'est que pour chaque maladie, il doit y avoir un remède ou une thérapeutique spécifique, pas de panacée. Troisième élément, c'est que ces maladies sont le fruit d'une production de la nature, ne sont pas des péchés, et que ces maladies émergent dans tous les règnes de la nature, qu'il n'y a pas de spécificité des humains. Une maladie humaine, c'est comme une maladie animale, c'est comme une maladie des plantes. Et que les maladies sont comme le troisième règne entre les plantes, les animaux, il y a une troisième règne de la nature qui est la règne des maladies.
Ou, si on préfère, des microbes, des bactéries, des virus qu'on découvrira bien après Jenner, dont les méthodes de vaccination contre la variole humaine à partir de la maladie cousine de la vache seront quand même appliquées pendant des décennies. Mais le grand nom des vaccins, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on va le connaître. C'est le français Louis Pasteur qui mettra en évidence l'existence des microbes, des bactéries. De nouveau, Peter Keating.
Ce que fait Pasteur est assez important dans le sens suivant. Pasteur fait un vaccin intentionnel. Jenner a combiné des observations de l'histoire naturelle des maladies et le vaccin qu'il a produit, c'était un vaccin qui existait déjà. Ce que fait Pasteur, c'est de produire un vaccin à partir des pratiques de laboratoire. Son premier vaccin, c'est un vaccin contre le choléra des poules. C'est un accident de laboratoire. Il est parti en vacances pendant l'été. Il avait cultivé le choléra des poules et cette choléra des poules s'est atténuée durant l'été, sans qu'on le sache. Cette culture de cellules étant atténuée, la maladie ne s'est pas produite. En faisant l'enquête, on découvre qu'en effet, on a produit malgré nous un vaccin du type culture atténuée. Et c'est à partir de ce moment-là que Pasteur introduit la notion de vaccine, ou vaccin, un vaccin produit par l'atténuation ou l'immobilisation ou la mise en échec du bactérie concernée.
Et le grand vaccin de Pasteur, ça va quand même être la rage, 1880...
Je crois que c'est 81. Le rage, c'est assez intéressant dans le sens où c'est l'une des maladies les plus rares. Si Pasteur fait le vaccin contre le rage, c'est parce que Pasteur n'est pas médecin. Il n'a pas le droit de toucher aux êtres humains. Donc, il cherche une maladie qui fait le pont entre les êtres humains et les animaux. Il faut savoir que tous les vaccins avant cela étaient des vaccins pour les maladies animales. Charbon, choléra des poules. Et donc, pour faire le pont, pour faire la preuve de son nouveau façon de faire des vaccins, il faut qu'il fasse la preuve chez les êtres humains. Cependant, la seule maladie qui lui permet de le faire, c'est justement le rage. L'ironie dans tout cela, c'est que ce que fait Pasteur dans ce cas-là, c'est presque un vaccin thérapeutique et non pas un vaccin prophylaxique. Parce que le rage, c'est une maladie virale. Il ne le sait pas. Pasteur n'a jamais connu les virus. Il est mort avant de découvrir les virus. Il ne sait pas que ses cellules contiennent le virus, mais il croit avoir un produit qui contient la maladie dans le moule épinière des lapins. On cultive les moelles épinières à des températures assez basses et on réussit à travers plusieurs passages à atténuer le virus. On ne sait pas que c'est un virus.
Viendront, après ce vaccin contre la rage, dont le succès aura un retentissement considérable, de nombreux autres vaccins, bien sûr, après notamment l'isolement de bactéries, de virus responsables de maladies comme la tuberculose, la variole, la poliomyélite, des vaccins qui permettront certaines des plus grandes victoires de la médecine moderne. Anne-Marie Moulin est médecin et philosophe des sciences, historienne de la vaccination et attachée au Centre d'études et de documentation économique, juridiques et sociales. J'ai jointe à son domicile, au Caire, en Égypte, et nous avons parlé d'anti-vaccination, pratiquement aussi vieille l'anti-vaccination que les vaccins eux-mêmes.
C'est vrai que les vaccinations, si on peut parler des vaccinations, ont suscité des inquiétudes, voire des résistances, voire même des véritables révoltes, dans des contextes qui sont en même temps extrêmement différents. On ne peut pas parler d'une unité, d'un mouvement contre la vaccination à travers l'histoire. Ce sont des réactions très diverses, en particulier suivant qu'il s'agit souvent de réactions à la façon dont la vaccination est proposée, en particulier aux formes de contraintes dont elle peut s'accompagner.
Est-ce qu'il y a des moments particuliers ou des événements particulièrement significatifs pour l'historien ?
Bah écoutez, au cours de ces deux siècles, hein, parce qu'en fait, ça fait plus de deux siècles, Jenner, c'est 1799, au cours de ces deux siècles, il y a eu effectivement des moments très forts. Il y a eu les événements en Angleterre, le refus de la population qui était une véritable rébellion. à Leicester avec des procès. Mais le moment dont je préfère parler, c'est la guerre, la révolte du vaccin à Rio de Janeiro.
Ah oui.
Quand les Brésiliens ont déclaré la vaccination contre la variole obligatoire, le petit peuple de Rio s'est soulevé, a fait des barricades, et il y a eu une semaine sanglante.
Il y a eu des moments très, 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 très forts. Il y a eu aussi quand même des accidents de la vaccination. On rappelle toujours cette histoire du vaccin contre la tuberculose, le BCG, avec le triste épisode de Lübeck en Allemagne.
Je pense que cet épisode est extrêmement important. Il est resté dans la mémoire de beaucoup de pays. Je pense que en France et en Allemagne, il a été absolument déterminant pendant plusieurs années. Et aux États-Unis, je pense qu'il a aussi laissé quelques traces. Il faut dire qu'il y avait quand même plus d'une centaine d'enfants qui étaient morts, qui sont morts dans des conditions assez mystérieuses, puisque finalement, on ne sait pas vraiment avec certitude si c'était le vaccin qui avait été contaminé par une souche virulente de bacille tuberculeuse, c'est l'hypothèse la plus probable, elle n'a jamais été affirmée. Et il y a deux choses qui ont fait de ce procès, parce qu'il y a eu un procès qui était un grand procès médical, peut-être le premier grand procès médical, donc en 1930-1931, c'est que ce procès a mis en valeur le fait qu'on n'avait pas les connaissances nécessaires en génétique pour être sûr que des vaccins atténués ne pouvaient pas redevenir virulents. Mmh. On n'avait pas les outils scientifiques pour examiner la question. Et puis deuxièmement, c'était 1930-1931, c'est la montée du nazisme, et vous savez peut-être que Hitler était un adversaire de la vaccination.
Et ce qui est curieux, c'est que malgré les victoires de la vaccination sur les maladies infectieuses, dont des maladies extrêmement graves, ce qui est curieux donc, c'est que l'opposition au vaccin perdure encore au XXIe siècle. Surprenant, la réponse d'abord d'Anne-Marie Moulin.
Très souvent, tout dépend de l'administration, de l'autorité qui est derrière l'administration du vaccin. Et très souvent, en particulier dans les pays du Sud où je travaille, il y a eu des suspicions à l'égard de vaccins dont les populations soupçonnaient, à tort vraisemblablement, que ces vaccins étaient destinés non pas à les protéger, à les immuniser contre des maladies, mais à les stériliser.
La perception, justement, vous parlez de ces pays du Sud que vous connaissez bien, dans lesquels vous travaillez, notamment parce que vous travaillez sur les maladies tropicales, évidemment. La perception, de façon générale, du vaccin et de la vaccination dans les pays du Sud, ou dans certains pays du Sud, ça pourrait se présenter comment?
C'est très ambivalent. Les pays du Sud ont été très familiers des opérations de vaccination, puisque la vaccination est une opération de masse avec des produits qui au départ n'étaient pas très chers, apparaissaient comme la solution idéale pour les pays en voie de développement.
Oui.
Mais précisément parce que ces vaccins semblaient une solution bon marché et facile pour des pays pauvres, il y a une ambiance de suspicion en certains cas, parce qu'on pense que finalement c'est une façon pour les pays riches d'éviter de donner de véritables traitements ou plus efficaces et de les renvoyer à une médecine de pauvres et une médecine collective, une médecine aussi là encore obligatoire et imposée.
Et j'ai posé la même question à l'historien Peter Keating. Est-il surpris par le fait que l'opposition à la vaccination perdure?
Pas tout à fait, non. Dans la vaccination, il y a un calcul qui est double. Il y a le calcul individuel. Pourquoi moi, je dois subir les dangers potentiels d'une vaccination, pour lequel j'insiste, il y en a très peu, et c'est presque inexistant pour quelque chose comme la grippe. Mais aussi, il y a le calcul public, santé publique. Alors, dans cette division des calculs, calcul individuel, calcul collectif, il y a toujours la possibilité d'introduire une idéologie individualiste en disant: pourquoi moi, je dois subir les conséquences possibles d'une mauvaise vaccination ou d'un accident quelconque? Alors, donc, il y a dans un monde individualiste, ou du moins dans une démocratie libérale, il y aura, bien sûr, toujours de l'individualisme, le refus pour des raisons individualistes. Par contre, et ça ne disparaîtra pas demain, il y a une autre raison pour laquelle les gens s'opposent souvent à la vaccination, et ça, c'est depuis le début du 19e siècle, c'est que la vaccination est servie par l'État. Et donc, c'est vu comme faisant partie de la médecine officielle ou médecine d'État. Or, depuis les années 50, il y a eu tout le mouvement de médecine alternative qui fait qu'il y a beaucoup de résistance à toute médecine qui a une teinteur ou une odeur officielle. Et les gens peuvent s'opposer à la vaccination en disant « Ah, ça c'est la médecine traditionnelle, la médecine allopathique. » Et moi je suis adepte de la médecine alternative, même homéopathique, et voilà, je refuse. L'ironie dans tout ça, c'est que l'une des médecines alternatives les plus populaires, homéopathique, repose en dernière instance sur une sorte de principe de vaccination. C'est à Jenner et vaccination générienne auxquelles on fait référence dans les premiers travaux du grand inventeur de l'homéopathie.
Hahnemann, donc, s'inspire de Jenner pour mettre au point l'homéopathie.
Oui, sa doctrine d'homéopathie. Et voilà que même au sein de la racine même de l'opposition à la vaccination, on trouve en fait la vaccination.
Peter Keating est historien de la médecine à l'Université du Québec à Montréal. Et avant lui, on avait entendu Anne-Marie Moulin du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire, en Égypte. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, on a observé le plus ancien phénomène astronomique jamais détecté, un sursaut gamma survenu lors de la mort d'une étoile massive, un événement qui s'est produit il y a plus de 13 milliards d'années.
Grâce à ce sursaut gamma, puisque ces sursauts signent la fin de l'évolution des étoiles, eh bien on est sûr que des étoiles existaient déjà à peine 600 millions d'années après la naissance de l'univers. Ça veut dire que les phases d'évolution de l'univers ont été beaucoup plus rapides qu'on ne le croyait encore jusqu'à présent.
Le courrier, cette semaine, nous plonge à nouveau dans le monde des seringues d'Épicure. Mais cette fois, il est question de tatouage. Alors voici la question que nous a transmise Christian Charette. Bonjour et bravo pour votre émission, merci beaucoup. Ma question concerne le tatouage. Comment un tatouage peut-il durer aussi longtemps sans modification notable alors que la peau se renouvelle constamment? Ou bien le tatouage concerne-t-il seulement une partie de la peau qui demeure immuable toute la vie durant? J'ai posé la question à quelques dermatologues qui, manifestement, ne se l'étaient jamais posée. Alors, pour répondre à cette fameuse question, Sophie-André Blondin a joint le docteur Catherine Grognard. Elle est dermatologue, spécialisée dans la pratique des lasers médico-chirurgicaux, auteur de livres sur le tatouage et sur le détatouage.
Tout dépend de la profondeur d'injection du tatouage. En fait, la peau se renouvelle effectivement tous les mois, mais c'est l'épiderme, c'est-à-dire la partie la plus superficielle de la peau qui se renouvelle. Et en fait, le tatouage est inséré dans le derme. Il peut être inséré dans le derme superficiel, moyen ou profond, donc il peut même être très profond. C'est ce qui explique en partie sa permanence. La deuxième cause de sa permanence dépend un petit peu de la granulation du pigment qui est mis dans la peau. En fait, vous savez qu'il y a des cellules qu'on appelle macrophages, des cellules macrophagiques qui digèrent les éléments étrangers ou les infections. Et ces cellules sont limitées parfois par la taille des lésions. Donc la taille du pigment importe aussi. Les tatoueurs utilisent des pigments de granulométrie différente.
Est-ce que les tatoueurs choisissent sciemment le niveau du derme dans lequel ils vont insérer les pigments d'encre et la grosseur des pigments d'encre?
Alors certains tatoueurs, oui. Moi, j'avais interrogé, c'est d'ailleurs un tatoueur qui m'avait donné les explications sur la granulométrie des pigments. Et effectivement, s'ils veulent avoir, par exemple, un tatouage très dense, soit ils mettent beaucoup de pigments, soit ils mettent des pigments à gros granules. D'ailleurs, vous voyez, dans des tatouages artistiques, vous avez parfois des zones très foncées et puis des espèces de nuages ou des zones ombragées simplement. Et en fait, ça dépend uniquement de l'angulation l'installation de l'aiguille. Si vous voulez avoir un aspect un peu poudré, nuagé, très léger, eh bien les tatoueurs implantent assez tangentiellement leur aiguille de façon à donner quelque chose de très léger. Et par contre, s'ils veulent avoir une trace très sombre, bien foncée, bien ancrée, là ils mettent une dose de pigment très en profondeur en mettant leur aiguille vraiment perpendiculairement à la peau pour que ça aille bien profondément. En jouant sur l'inclinaison de leur aiguille, ils peuvent très bien avoir des tatouages plus ou moins permanents ou plus ou moins denses en quantité.
Ça, c'est quand on veut les tatouages, Dr Grognard. C'est à l'époque où on désire le tatouage. Il arrive parfois dans la vie qu'un tatouage devienne indésirable. Comment s'en débarrasser? Vous avez parlé de cellules macrophages. Est-ce que de toute façon, notre organisme va finir par manger le tatouage?
Alors, avec le temps et en exposant le tatouage au soleil, par exemple, il y a des remaniements qui se passent et il peut y avoir une partie du tatouage qui s'estompe. Et ça, c'est bien connu des tatoueurs, hein, d'ailleurs, qui conseillent de protéger les tatouages du soleil. Donc, il peut y avoir une résorption macrophagique seule, mais quand on ne veut plus d'un tatouage, on a à l'heure actuelle, médicalement parlant, des techniques extrêmement performantes, hein, qui sont les lasers pigmentaires, qu'on appelle aussi laser Q-switch. Et en fait, le rôle de ces lasers, justement, c'est de faire exploser en profondeur, la lumière laser pénètre en profondeur, traverse les couches de la peau et va se fixer par le pigment qui l'attire, en fait, hein, c'est la couleur du pigment qui l'attire. Ce laser, c'est exploser le pigment en mini-particules. Et c'est ces mini-particules qui sont plus facilement résorbées par les macrophages. C'est pour ça que quand on fait plusieurs séances, hein, puisqu'on va éliminer couche par couche un petit peu le tatouage, mais entre chaque séance, on respecte un espace d'à peu près 2 mois, et qui est le temps de résorption macrophagique.
Est-ce que ça laisse tout de même des traces indélébiles? Est-ce que tout tatouage est absolument effaçable?
Alors, certains tatouages sont parfaitement effaçables sans laisser la moindre trace. Hein, c'est tous les tatouages relativement légers, les tatouages amateurs, ça s'en va très bien, les tatouages tribaux aussi. En revanche, les tatouages professionnels qui sont très foncés sont beaucoup plus difficiles à enlever. Et dans ce cas-là, ils peuvent laisser effectivement, du fait du nombre, de la répétition du nombre des séances, ils peuvent éventuellement laisser des petites traces, un peu comme un tatouage fantôme, si vous voulez. Et puis, il y a certaines couleurs qui s'en vont mal, principalement le vert. On a beaucoup de mal à détatouer le vert parce qu'on n'a pas des lasers suffisamment performants au niveau de la longueur d'onde. Certains verts s'en vont bien, mais tous les verts ne s'en vont pas. Et ça, on ne peut jamais promettre qu'il n'y aura plus aucune trace quand le tatouage a du vert.
Oui. Est-ce que la partie du corps, le type de peau dans lequel le tatouage a été implanté, dans lequel l'encre a été implantée, a aussi un effet, fait varier la réussite d'un détatouage?
Pas vraiment. Hein. Ça fait 15 ans que, ou même plus, que je fais des détatouages avec ce laser-là. En fait, j'en ai pratiqué sur vraiment toutes les zones du corps. Il n'y a pas de zone plus résistante que d'autres. Il y a des zones plus ou moins douloureuses. Hein. Par exemple, la cheville, ça fait très mal quand on détatoue à cet endroit-là. Mais c'est plus un problème de type d'encre. Parce qu'il y a aussi la nature du pigment, parce que certains pigments à base d'oxyde de fer, par exemple, qui sont très très largement utilisés par les tatoueurs, sont beaucoup plus difficiles à enlever. Moi, je conseille toujours, comme j'ai parfois des jeunes gens qui me demandent conseil pour un tatouage, et je leur dis, écoutez, déjà choisissez une zone couverte, parce que le jour où vous voulez plus le voir, ben, si on peut le cacher, c'est quand même bien. Ensuite, éviter les tatouages polychromes et éviter le vert, parce que plus il y a de couleurs, plus c'est compliqué. Éviter de superposer des couleurs aussi. Il y a une chose qui se fait parfois, c'est d'essayer de camoufler un tatouage par un autre tatouage de couleur, mais là, on complique les choses si on doit enlever le tatouage médicalement. Hein.
Merci beaucoup, Dr Grognard.
Je vous en prie. Merci.
Sophie André Blondin s'entretenait avec la dermatologue Catherine Grognard. Et si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez nous envoyer par téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous composez le 1-800-752-9050. Puis aussi le courrier électronique. L'adresse est la suivante, lumière@radiotradeunioncanada.ca.
La chronique avec cette semaine Laurent Drissen, astrophysicien à l'Université Laval à Québec. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Une chronique, Laurent, dans laquelle vous allez nous raconter que les astronomes peuvent voir en même temps deux événements astronomiques séparés par plus de 3 siècles. C'est le chapeau du magicien, ça?
Oui.
Oui.
Oui. Ben, en fait, c'est dû au fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. La vitesse de la lumière, bon, c'est 300 000 km par seconde, ça paraît beaucoup, mais en fait, à l'échelle astronomique, c'est relativement lent. Et ça nous permet de faire des choses assez intéressantes qu'on va voir.
Alors, les deux événements, c'est quoi?
Alors, les deux événements, c'est l'explosion d'une étoile, l'explosion d'une supernova,
oui.
Et ce qu'il reste de cette explosion d'étoile 300 ans plus tard. Et c'est ça qui est intéressant, outre le fait que le résultat scientifique en tant que tel est intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est le concept même, comme vous le disiez, de pouvoir voir simultanément deux événements qui sont reliés par un lien causal, mais qui sont séparés par 300 ans à peu près, et de les voir simultanément.
Oui, alors l'étoile en question, c'est?
Bon, on parle de Cassiopée A.
Oui.
Cassiopée A, c'est ce qu'on appelle un rémanent ou un reste de supernova. C'est une espèce de coquille de gaz assez filamenteuse qui est le résultat de l'explosion d'une étoile.
Oui.
Alors, Cassiopée A, c'est un objet qui est très étudié. On en connaît, en fait, c'est la source radio, d'émission radio la plus brillante du ciel. C'est une source de rayons X, c'est une source de rayonnement visible. Donc, c'est un objet qui est très, très bien connu.
Oui, qui est proche de nous, qui est dans notre galaxie.
Qui est dans notre galaxie, oui. Donc, c'est un objet qui est très proche. On voit les détails de façon assez fine. Et, bon, c'est une coquille filamenteuse dont on sait que la composition chimique est particulière. Il y a des éléments très lourds comme le nickel ou le soufre. La densité est très élevée, température qui peut atteindre des millions de degrés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde Cassiopée A à différents moments, séparés de quelques années, on se rend compte que le gaz se déplace.
Oui.
Donc, c'est une enveloppe qui est une espèce de coquille qui est en expansion. À des milliers de kilomètres par seconde, on a noté certaines composantes de gaz qui allaient jusqu'à 6000 kilomètres par seconde.
Et quand on parle, vous dites un événement qui a lieu il y a environ 300 ans, c'est donc un événement qu'on a observé, qu'on a répertorié à l'époque.
C'est ça qui est étonnant.
Parce qu'il y en a dans l'histoire des observations. Hein,
Oui, ben, on pense par exemple à la supernova de 1572, qui a été très très bien documentée par Tycho Brahe,
oui.
Ou celle de 1650. Par Kepler, ce sont des étoiles qui atteignent des luminosités très proches de celles de Vénus, par exemple, qui sont très, très brillantes pendant des mois et des mois. Mais celle qui a donné lieu à Cassiopée n'a pas été si spectaculaire que ça. Du moins, on n'a pas
Personne ne rapporte l'avoir vue à ce moment-là.
Exactement. Et ça, c'est étonnant. Si jamais on regarde les espèces de filaments qui se déplacent, qu'on refait le film à l'envers, qu'on repasse le film à l'envers, l'explosion de l'étoile aurait dû être observée vers 1680 environ,
oui.
Ce qui n'a pas été le cas.
Donc, il y a 300 et quelques années, c'est pour ça que vous dites l'événement s'est passé il y a 300 ans et on va l'observer aujourd'hui. Un tout petit rappel avant de continuer, la supernova, donc, c'est important, le mécanisme des supernovas. Hein.
C'est très important parce que les supernovas jouent un rôle vraiment important dans l'écologie des galaxies, de l'univers, de l'évolution chimique en particulier de l'univers.
Oui, c'est
extrêmement important de bien les comprendre et surtout de voir le lien entre l'explosion elle-même et ce qui arrive du reste de supernova plusieurs siècles plus tard.
Alors donc, on dit qu'on aurait dû voir l'explosion autour de 1680 à peu près, donc il y a 300 et quelques années. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on a parlé au début de deux événements qu'on regardait en même temps.
Oui. Donc, à l'époque, personne presque ne l'a vu. Surtout, il n'y avait pas de spectrographe pour nous indiquer de quel type d'étoile il s'agissait. Alors, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des échos. Ce qu'on a détecté il y a quelques mois, ce sont ce qu'on appelle des échos. La lumière qui est émise par la supernova, et là, on parle de centaines de millions de fois la luminosité du Soleil,
oui.
Cette lumière-là, elle est répartie dans toutes les directions de la galaxie.
Comme une explosion le ferait, donc. Oui.
Exactement. Donc, quand la lumière passe par la Terre, on peut l'observer. Si on ne l'a pas fait, c'est trop tard en principe. Mais cette lumière-là, elle continue de se propager dans la Voie lactée.
Oui.
Et la Voie lactée est riche en ce qu'on appelle de la poussière. Ça, c'est des grains de silicate ou de carbone qui sont entourés d'une couche de glace. Et cette poussière-là permet de diffuser la lumière dans d'autres directions. Un petit peu comme les montagnes dans une vallée, vous savez, vous criez, puis là, tout d'un coup, on entend l'écho, ça fait de l'écho. Là, c'est la même chose, la lumière est émise dans toutes les directions, et ce qu'on a observé, c'est la réflexion de cette lumière.
L'écho de la lumière,
oui. L'écho de la lumière sur des couches de poussière du milieu interstellaire.
Et qui nous revient, cet écho, vers la Terre.
Exactement, avec un délai de 300 ans environ.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé exactement?
Donc, ce qu'on observe, c'est que les échos, et ça c'est intéressant, c'est que encore là, quand vous observez les échos, vous prenez une image à peu près 2 mois plus tard et vous voyez que l'écho s'est propagé parce que la lumière se déplace quand même assez rapidement. Et bon, voir la lumière, c'est intéressant, c'est donc l'explosion elle-même qu'on voit par réflexion, mais c'est encore plus intéressant d'en obtenir le spectre.
Oui, et qu'est-ce que ça nous apprend, donc, le spectre de Cassiopeia, donc cette supernova qu'on aurait dû observer il y a 300 et quelques années.
La qualité du spectre est excellente. Elle a été obtenue avec le télescope Subaru. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit des raies de calcium, des raies spectrales de calcium, de sodium, d'oxygène, un petit peu d'hydrogène. Et ça, c'est tout à fait caractéristique d'un certain type de supernova. C'est-à-dire que l'étoile qui a explosé, que l'on voit maintenant exploser, c'était ce qu'on appelle une supergéante rouge,
oui,
qui avait perdu la plupart de son enveloppe d'hydrogène. Ce qu'on peut remarquer aussi d'après le spectre qu'on voit aujourd'hui, c'est que le gaz a été éjecté à des vitesses assez fabuleuses d'environ 11 000 km par seconde.
Oui, oui, oui.
Et en comparant avec la vitesse de l'éjecta actuelle, que l'on observe actuellement 300 ans plus tard, qui est d'environ 6 000 km par seconde, on se rend compte que la matière a donc dû être ralentie lors de l'explosion.
Donc, c'est une sorte d'étude post-mortem d'une supernova que vous faites en regardant les fameux échos?
Exactement. C'est un des rares phénomènes en astronomie qui nous permettent d'étudier simultanément la cause, c'est-à-dire oui, l'explosion de l'étoile, et l'effet, c'est-à-dire le développement de la coquille et son mélange dans le milieu interstellaire. Mais ces deux événements-là sont séparés de plus de 3 siècles. À l'échelle humaine, c'est un petit peu comme si on pouvait observer la naissance d'un enfant simultanément avec le comportement du vieillard que cet enfant est devenu, je ne sais pas, 90 ans plus tard.
Je disais vraiment, vous êtes des magiciens, des astronomes, des astrophysiciens.
Oui. Ça nous permet donc de faire le lien entre la physique de l'explosion, ce qui s'est produit lors de l'explosion, et la physique du rémanent là, qu'on observe aujourd'hui.
Donc, des choses tout à fait merveilleuses. Laurent Drissen, merci beaucoup.
Merci, Yannick.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de notre première heure. Je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30 l'émission Découverte qui propose une édition spéciale entièrement consacrée à la grippe H1N1 avec des reportages sur la pandémie, la préparation pour y faire face, le virus, le vaccin, sa fabrication, les œufs fécondés dont je vous ai parlé, vous allez les voir. Cela dit, vous restez avec nous après les nouvelles, la deuxième partie des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure.
deuxième heure, deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villedieu toujours au microphone pour vous le présenter. Alors cette deuxième heure, elle commence avec Sophie-André Blondin et avec le plus vieux sursaut gamma jamais enregistré. Après le petit journal de la science, Hugues de Roussan nous emmène rencontrer les ingénieurs de demain. Et pour terminer l'émission, je reçois l'auteur de la semaine, le docteur Alfred Spira, co-auteur d'un livre qui s'appelle « La fertilité est-elle en danger ?» publié aux éditions La Découverte. Alors, les Jeux olympiques ne sont pas encore ouverts et notre ami Hugues de Roussan n'est pas encore à Vancouver. Je fais des vers, Sophie-André. Hein?
C'est beau, très beau.
Mais voilà que déjà certains records ont commencé à tomber. Ce nouveau record, par exemple, celui de l'objet astronomique le plus lointain, donc le plus ancien, évidemment, jamais détecté. Un phénomène qui commence à nous rapprocher drôlement du Big Bang, hein, Sophie-André?
Oui, en effet, des équipes ont détecté un sursaut gamma qui s'est produit seulement 630 millions d'années après le Big Bang. Alors, c'est un événement qui s'est produit bien, il y a très, très longtemps. L'univers n'avait que 5 % de son âge actuel. On estime qu'il était 9 fois plus petit. C'est un sursaut qui est survenu, donc, il y a 13 milliards 100 millions d'années et qui a été détecté par le satellite SWIFT, non pas il y a quelques centaines d'années, comme les supernovas dont Laurent nous parlait tout à l'heure, mais le 23 avril dernier, et qui porte le nom de GRB pour Gamma Ray Burst, 090423 pour la date de sa détection. Il s'agit d'une découverte spectaculaire qui a fait l'objet de 3 articles dans la revue Nature.
D'ailleurs, c'est quand même pas très étonnant que ce soit un sursaut gamma qui a été détecté aussi loin, donc aussitôt dans l'histoire de l'univers quand même.
Non, parce que ces sursauts, c'est les phénomènes les plus violents, les plus lumineux qui se produisent dans l'univers après le Big Bang, bien sûr. Les sursauts gamma surviennent lorsqu'une étoile massive, une étoile beaucoup plus massive que notre Soleil, arrive au bout de sa course. Et en soi, c'est des phénomènes assez fréquents qu'on peut détecter presque tous les jours. Mais des sursauts aussi loin, donc aussi ancien, c'est décidément plus rare. C'est très rapide aussi. Il y a une première émission, un premier flash, qu'on pourrait dire, qui ne dure que quelques secondes et qui est suivie d'une autre émission, une émission rémanente qui, elle, dure plus longtemps mais qui s'affaiblit constamment. Paolo D'Avanzo de l'Observatoire de Brera en Italie est l'un des auteurs des articles qui ont décrit le nouveau doyen des sursauts gamma. Il raconte ce qui s'est passé le 23 avril dernier.
J'étais là, ces nuits-là, dès le 23 avril, à faire la première observation de ces sursauts-ci, pour faire une mesure de la distance et ceci.
Alors, vous étiez là le 23 avril. Racontez-moi comment ça s'est passé.
Oui. La chose difficile est que ces phénomènes-ci sont des phénomènes très rapides. Et on doit être très rapide si on veut les observer. Quand il y a un sursaut gamma, nous recevons une alerte sur le téléphone et nous avons des accords avec des autres observatoires dans le monde. Nous pouvons les appeler et il doit observer les sursauts gamma avec les télescopes sur la Terre tout de suite quand nous les appelons. Ce qu'on a fait la nuit le 23 d'avril dernier. J'ai reçu sur mon téléphone une alerte qu'il y avait un nouveau sursaut gamma et avec mes collaborateurs j'ai appelé l'observatoire italien qu'il y a sur les îles Canariennes et j'ai demandé à mes collègues là d'observer tout de suite ces sursauts-ci et ils ont envoyé les images sur mon ordinateur. J'étais en Italie, mon institut, ces nuits-là. Et j'ai pu voir cette image et j'ai calculé la distance de cet objet-ci avec mes collaborateurs. Et on avoue que ce sursaut gamma-ci, c'était un sursaut gamma exceptionnel parce que c'était le plus lointain et donc le plus vieux qu'on a jamais observé.
Oui, une belle observation. L'astronome Paolo D'Avanzo, donc, qui a rapidement établi à Sophie André que le sursaut détecté par le satellite SWIFT était vraiment exceptionnel.
Et oui. Susanna Vergani aussi, d'ailleurs, elle est postdoctorante en astroparticules et en cosmologie au Centre national de recherche scientifique à Paris. Et à travers son port d'attache, l'Observatoire de Milan, elle fait partie de l'équipe qui a dû réagir promptement lorsque le satellite américain SWIFT a envoyé le fameux message qu'il venait d'y avoir détection d'un sursaut gamma.
Le GRB-090423 est vraiment particulier, exceptionnel, parce que c'est un sursaut qui a explosé très loin dans l'univers. Et c'est l'objet qu'on a détecté en astronomie le plus loin jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement des sursauts gamma, de tous les objets de l'univers.
Il faut réagir très rapidement parce qu'il s'agit d'un point lumineux très précis. Il faut d'abord que, pour le sursaut gamma initial, les télescopes spatiaux se tournent rapidement vers cette source lumineuse et que les télescopes terrestres réagissent rapidement pour avoir la suite de l'histoire.
Oui, c'est exactement comme ça. Ça ne dure pas longtemps. On a en effet deux émissions. Une émission qu'on appelle prompte, qui n'est visible que pour quelques secondes et on peut l'observer à très haute énergie. Et on a aussi une émission qu'on appelle l'émission rémanente ou afterglow, qui peut durer, disons, des heures, des jours, voire des mois. Donc l'émission qu'on appelle prompte est détectée par des satellites et elle est détectée dans les domaines d'énergie de gamma. C'est pour ça le nom sursaut gamma. L'émission qu'on appelle rémanente, on la détecte et par des satellites dans le domaine X ou sur le sol, dans les longueurs d'onde d'eau visibles et de l'infrarouge et du radio. En effet, maintenant sur Terre, on est capable de réagir après vraiment quelques minutes depuis la détection par satellite. Et en effet, ces sursauts-là, 090423, a été observé que des heures après. Donc, tout d'abord, on a eu la détection de ces rayons gamma par le satellite. Et donc, après, tous les télescopes sur Terre ont commencé à voir, d'observer la contrepartie rémanente, l'émission rémanente. Et on l'a cherché en plusieurs longueurs d'onde, donc dans le visible, dans l'infrarouge. Et on a vu que dans le visible, on ne voyait rien. Dans l'ultraviolet non plus, tandis qu'on a eu des observations, des détections dans l'infrarouge.
Et ça, en détectant dans l'infrarouge, ça vous en disait sur l'ancienneté et la distance de GRB-090423?
Oui, parce que avec l'expansion de l'univers, tous les, disons, les longueurs d'onde sont décalées à des longueurs d'onde plus grandes. Donc, ce que sur Terre, en transition, disons, dans le visible, on va le voir dans l'univers lointain, on va le voir dans l'infrarouge. Tandis que ce que c'est dans l'ultraviolet, on va le voir dans le visible. Mais tous les rayons de l'ultraviolet sont absorbés dans l'univers lointain par l'hydrogène neutre qu'il y a dans le milieu intergalactique, à partir du lieu de l'explosion de sursaut gamma jusqu'à nous. Donc, dans les spectres, le fait que, avec nos observations, le fait qu'on voit dans l'infrarouge et après on ne voit plus rien, ça nous donne la distance jusqu'à laquelle toute la lumière a été absorbée par l'hydrogène neutre. Et donc, ça nous permet de dire, c'est à cette distance-là qu'il a eu lieu le sursaut gamma.
Susanna Vergani, donc du CNRS à Paris, et cette distance depuis laquelle il ne restait que des signaux dans l'infrarouge, elle est très, 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 très grande, Sophie.
Oui, Yannick, oui. Pour la mesurer, oubliez les kilomètres, il faut calculer avec le temps écoulé. Une étoile massive a fini sa vie dans un univers encore tout jeune. Les jets de particules qui ont été éjectés nous sont parvenus un soir d'avril 2009, après un voyage de 13 milliards 100 millions d'années. Selon Jacques Paul, qui est spécialiste des astroparticules et de la cosmologie au commissariat à l'énergie atomique à Paris, la détection de GRB-090423 force les astronomes à revoir ce qu'ils croient au sujet des débuts de notre univers.
C'est de loin l'objet le plus lointain que l'homme n'ait jamais pu détecter, enregistrer, voir, si vous voulez, par l'intermédiaire de ses instruments.
L'univers était très jeune, vous l'avez dit. Il a 14 milliards d'années, ça s'est produit. On estime il y a 13 milliards 100 millions d'années. On dit que l'univers n'avait que environ 630 millions d'années lorsque cette étoile massive est arrivé en fin de vie. Un univers si jeune et déjà des étoiles massives en fin de vie?
Eh bien, c'est tout le paradoxe. Pour qualifier cette période, pendant laquelle l'univers est passé de en quelque sorte du Big Bang, d'un événement extrêmement violent, extrêmement chaud, extrêmement agité, mais aussi extrêmement finalement simple à décrire, à un univers aussi complexe que celui qu'on connaît maintenant, avec des galaxies, et dans les galaxies des étoiles, et entre les galaxies des grands vides, eh bien, les astronomes sont stupéfiés par la vitesse à laquelle l'univers a pu déjà former des objets familiers comme les étoiles. Et grâce à ce sursaut gamma, puisque ces sursauts signent la fin de l'évolution des étoiles, eh bien, on est sûr que des étoiles existaient déjà à peine 600 millions d'années après la naissance de l'univers. Ça veut dire que les phases d'évolution de l'univers ont été beaucoup plus rapides qu'on ne le croyait encore jusqu'à présent. Plus ces observations tombent, plus on doit imaginer le processus par lequel l'univers a pu former des galaxies et des étoiles aussi rapidement. Et ça, c'est un peu à la limite de ce qu'on peut expliquer de nos jours. Et rien n'empêche qu'on en trouve des encore plus lointains. Mais on va forcément arriver un jour à ce qu'on appelle la première étoile ou les premières étoiles.
Les astronomes sont un peu les généalogistes des étoiles.
Eh bien, exactement. Et les étoiles, c'est très important parce que les étoiles, c'est elles qui ont fabriqué tout ce dont on est fait, hein. Il n'y aurait eu que le Big Bang, l'univers serait un peu triste, il n'y aurait que de l'hydrogène et de l'hélium. Et avec de l'hydrogène et de l'hélium, on ne fait pas grand-chose. Et donc, c'est évident que notre passé lointain s'est fait à travers les étoiles. Donc, trouver les premières étoiles, c'est un peu pour les astronomes comme pour les anthropologues, trouver ce fameux chaînon manquant, ce fameux premier homme qui s'est détaché des singes.
Jacques Paul est spécialiste des sursauts gamma au Commissariat à l'énergie atomique. Alors, ce André, trouver les premières étoiles, hein, le rêve est encore vivant chez les astronomes parce que le but n'est pas encore atteint, mais même si le dernier sursaut quand même nous approche du but.
Oui, hein? Mais les caractéristiques détectées sur ce sursaut gamma suggèrent aux astronomes que l'étoile massive qui en est à l'origine ne fait pas partie des toutes premières générations d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'elle nous ressemble encore un peu trop. C'est ce que nous explique Paolo D'Avanzo de l'Observatoire Brera.
Ce sursaut gamma-ci est très lointain, est très vieux, mais nous avons observé des propriétés égales que les autres sursauts gamma qu'on a observés avant à autre distance. Ça veut dire que l'étoile de quoi vient ce sursaut gamma-ci est du même type que les autres sursauts gamma qu'on a observés jusqu'à aujourd'hui. Mais nous pensons, la théorie nous dit qu'on peut exister aussi des autres types d'étoiles, étoiles de première génération, nous astronomes les appelons étoiles de troisième génération, qui sont très très massifs, mille fois notre Soleil. Nous pensons qu'on peut faire des sursauts gamma. Et si la théorie c'est vrai, et nous pensons, nos équipes pensent que c'est une théorie vraie, ça veut dire qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il est possible de les observer, il est possible de fracasser ces records-ci.
Alors d'aller encore plus près du Big Bang.
Plus près de le Big Bang, exactement. Ça veut dire qu'on peut observer les premières étoiles qu'on a originées, qu'on a formées dans l'univers. Vraiment les premières étoiles.
C'était Paolo D'Avanzo de l'Observatoire Brera en Italie, l'un des auteurs des articles au sujet de la détection du plus ancien, du plus lointain sursaut gamma jamais observé.
Imaginez Yannick, la tête dans les étoiles, c'est une chose. Par contre, la tête dans les toutes premières étoiles, ça on peut dire que c'est quelque chose.
Merci beaucoup Sophie André. On s'en va là-dessus au petit journal de la science avec entre autres notre stagiaire de la Bourse Fernand Seguin, Nathalie Vigneault.
Le rayon X serait la plus importante découverte du monde moderne si on se fie aux résultats d'une enquête réalisée par le Musée des sciences de Londres à l'occasion de son 100e anniversaire. Cette enquête a été menée auprès de 50 000 personnes qui ont visité le musée ou son site Internet. Le rayon X est arrivé en tête avec 19 % des voix, suivi par deux découvertes du monde médical, soit la pénicilline découverte par l'Écossais Alexandre Fleming et l'identification de la structure en double hélice de l'ADN survenue en 1953 à Cambridge en Angleterre. Découvert par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, le rayon X a révolutionné la pratique de la médecine. Il a permis de diagnostiquer de nombreuses maladies, tout en ayant un impact important sur la préparation des chirurgies et les traitements médicaux. D'autres découvertes ont obtenu des votes, comme la capsule Apollo 10, le moteur de fusée V2, le moteur à vapeur, le télégraphe électrique et l'ordinateur.
« 135 victimes humaines », c'est le nombre qu'avait calculé l'officier John Henry Patterson en 1898 au sujet des deux lions anthropophages qu'il a lui-même abattus après 9 mois de carnage. Ces mangeurs d'hommes avaient perpétré plusieurs attaques sur le chantier de construction d'un chemin de fer qu'ils supervisaient au Kenya. Les deux carnivores, qui n'hésitaient pas à tirer brutalement les victimes de leur sommeil, auraient cependant eu moins d'appétit que la légende le laissait croire. Le biologiste Justin Yeakel et l'anthropologue Nathaniel Domini viennent de découvrir que c'est plutôt 35 hommes, ce qui n'est pas rien, qui auraient été la proie des bêtes. Les deux chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont déterminé la teneur en azote 15 et carbone 13 contenue dans le poil et les os des deux lions, leur permettant de reconstituer leur régime alimentaire des derniers mois. En comparant les ratios d'azote 15 des différentes proies possibles, tels les zèbres, les girafes et aussi les habitants de la région, ils ont trouvé la combinaison leur permettant de déterminer le nombre de victimes humaines. Différentes hypothèses sont émises pour expliquer cet épisode de terreur exceptionnel qui a eu lieu il y a plus de 100 ans dans cette région. La réduction du nombre de proies disponibles, causée par la chasse, la sécheresse ainsi que les maladies pourraient en être la cause.
Le satellite SMOS a quitté la Terre, lancé cette semaine depuis le nord de la Russie. SMOS pointera ses radiomètres interférométriques vers la Terre et cartographiera l'humidité des sols et la salinité des océans. SMOS, pour Soil Moisture and Ocean Salinity, transmettra des données pendant au moins 3 ans. Les informations sur l'humidité des sols devraient permettre d'améliorer les prévisions météorologiques, surtout pour les événements extrêmes comme les tempêtes et les cyclones. Les mesures de salinité des océans, quant à elles, serviront d'indicateurs du fonctionnement des courants océaniques. Si le gradient de salinité qui existe entre les différents océans se dérègle, les grands courants marins changent, la circulation de l'air est affectée et le climat s'en ressent. Tous les professionnels qui travaillent sur les ressources en eau utiliseront les données de SMOS. Mais les responsables de ce satellite européen, français et espagnol, estiment que les pêcheurs et les navigateurs qui cherchent toujours les meilleurs courants y trouveront, eux aussi, leur compte.
Alors, toute la semaine s'est déroulée la première édition des Journées du Savoir, une initiative de la CREPUC. La CREPUC, c'est la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Le but, sensibiliser la population à l'apport des universités au développement économique et socio-culturel de la société. Chaque université présentait des activités auxquelles le public était invité, tant les universités francophones qu'anglophones. Alors, Hugues de Roussan, vous êtes rendu sur place pour voir.
Oui, et malheureusement, Yannick, je n'ai pas pu voir tout. Il y avait quand même 12 universités à travers la province. Et donc, j'ai dû choisir un peu comme quelqu'un le ferait s'il avait voulu profiter de l'occasion pour voir comment ça se passe à l'intérieur des murs d'une université. Alors, mon choix s'est porté sur l'ETS à Montréal, l'École de technologie supérieure, qui avait choisi comme vitrine d'exposer les réalisations de ses 22 clubs étudiants qui travaillent toute l'année pour construire et concevoir des voitures de course, des motoneiges silencieuses, des sous-marins à pédales, des canons en béton qui ne coulent pas et même des voitures solaires.
Et vous avez donc fait le tour de l'exposition, Hugues, et vous avez été attiré Je m'en doutais par le sous-marin à pédale, c'est le plus fascinant.
En fait, c'est un sous-marin à propulsion humaine, donc pour le faire avancer, il faut pédaler comme sur une bicyclette. C'est la force des jambes qui sert de carburant. Le sous-marin, il s'appelle Homer. Le premier était construit en 91. Et dès 94, Homer a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé. L'an dernier, le tout dernier né, le Homer numéro 7, un biplace sans hélice, eh bien lui, il a établi un record du monde, 5,133 nœuds, soit autour de 10 km à l'heure, record établi dans un bassin à Washington sur une distance de 100 mètres. Le temps d'un parcours, une quarantaine de secondes par la seule force des jambes. Plus facile à dire qu'à faire, Yannick, il faut quand même le construire, ce sous-marin. Alors, j'en ai discuté avec Francis Baril, étudiant de troisième année en génie électrique à l'École Technologie supérieure à Montréal.
C'est un sous-marin à propulsion humaine, donc il y a une personne à l'intérieur qui crée la propulsion. C'est un système de pédalier, en fait, je dirais comme un vélo. Par contre, on est couché à l'intérieur. Côté dimension, c'est vraiment optimisé au pilote. En fait, le sous-marin est presque fait sur mesure pour le pilote qui va entrer à l'intérieur, ce qui fait qu'on est vraiment à l'étroit afin d'être le plus hydrodynamique possible. Puis on est en position couchée pour pédaler. On est couché sur le ventre et on pédale vers l'arrière. Il y a deux types de sous-marins, avec hélice ou sans hélice. Puis ces deux catégories-là se divisent encore en deux pour avoir soit biplace ou monoplace. Actuellement, on travaille sur Homer 7, qui est un sous-marin biplace sans hélice. Donc, il est propulsé avec un système, je dirais, de palmes. Deux palmes qui vont de haut vers le bas, qui aident à propulser le sous-marin.
Quand vous parlez de palmes, c'est comme des palmes, des pattes de grenouille, là, comme quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine?
Je pourrais comparer ça à des ailes d'oiseaux plutôt. C'est deux grandes ailes qui sont situées à chaque côté du sous-marin, qui vont de haut en bas, puis qui assurent une propulsion vers l'avant. Puis Homer 7, c'est un deux places, donc on est deux à l'intérieur du sous-marin pour le propulser.
Jusqu'à quel point c'est étroit?
Bien, je peux donner un exemple. À la compétition, où est-ce qu'on va? L'eau est assez froide, c'est un bassin intérieur, donc pas de lumière, donc l'eau est assez froide. Les plongeurs ont tous des wetsuits, des combinaisons de 14 mm d'épaisseur pour se protéger du froid, tandis que nous, les pilotes, à l'intérieur, on a seulement des combinaisons de 3 mm d'épaisseur. La raison est simple, c'est qu'on n'a pas d'espace pour pouvoir mettre une combinaison plus épaisse. On fait avec ce qu'on a.
Autrement dit, les épaules touchent la coque du sous-marin.
Oui, certainement. On est assez à l'étroit pour être fixe à l'intérieur, les épaules appuyées sur les parois, puis comme ça, la poussée se fait simplement vers l'arrière. Il ne faut absolument pas être claustrophobe. On est dans un environnement vraiment petit. On est dans le noir presque total en compétition. C'est un bassin intérieur, donc il n'y a pas de lumière. C'est vraiment pas fait pour les claustrophobes.
Qu'est-ce que ça prend comme techniquement pour faire ça? Est-ce que c'est en fibre de carbone? C'est en matériaux composites? Est-ce qu'il y a une technologie particulière dans tout le système de pédalier et tout ça?
Actuellement, en Mer 7, la coque est faite en fibre de carbone. C'est un matériau vraiment résistant, assez léger. Puis, la coque est faite en fibre de carbone et en fond nautique, ce qui fait en sorte qu'il est neutre dans l'eau. Il ne flotte pas, il ne cale pas, il est simplement neutre. À la base, le sous-marin, on fait en sorte qu'il flotte légèrement. Ensuite, on vient l'équilibrer avec un système de poids qu'on met à l'intérieur parce que sinon, quand l'air dans les cylindres à l'intérieur venait à manquer, bon, il pourrait se mettre à couler. Nous, ce qu'on essaie de faire, on le met légèrement en flottabilité positive. Ensuite, on vient le stabiliser pour qu'il soit neutre dans l'eau, donc il ne flotte pas ni cale pas avec des poids.
Ensuite, vous rentrez dedans, donc il va descendre sous l'eau?
Non, on rajoute les poids une fois qu'on est à l'intérieur. Comme ça, il est neutre dans l'eau avec deux pilotes à l'intérieur.
Donc. Alors, s'il est neutre dans l'eau, donc il ne cale pas, vous voulez dire qu'il ne cale pas, comment il fait pour aller sous l'eau? Parce qu'un sous-marin, par essence, doit aller sous l'eau.
Puisque c'est un sous-marin conçu pour faire la course, on le descend nous-mêmes avec des plongeurs au niveau désiré. Ensuite, on a un système de contrôle électronique qui nous permet de se diriger. Là, c'est deux ailerons, même principe que les sous-marins normaux, qui nous permettent de nous diriger une fois dans l'eau.
Et on a besoin d'oxygène. Et comment vous faites pour respirer?
Bon, il faut dire que le sous-marin il est rempli d'eau. Il n'y a pas d'air à l'intérieur. On respire avec un système de bonbonnes et de tétanodeurs, comme les plongeurs. Donc, on peut rester le temps qu'on veut, en autant qu'on ait encore de l'air dans les cylindres. La raison pourquoi il est plein d'eau, c'est assez simple. Ça empêche le fait que s'il serait étanche, par contre, le sous-marin, et qu'il y aurait une infiltration d'eau, puis le sous-marin ne serait pas muni d'un système d'air, ça pourrait causer des problèmes au niveau de la sécurité. Là, en faisant un système comme ça, on assure que tout le monde ait ses cartes de plongée, soit à l'aise dans l'eau et soit muni d'un système d'air en tout temps.
La prochaine compétition du club Yannick, c'est en 2010 à Washington, mais déjà l'été prochain, plusieurs membres du club vont faire un long voyage, comme Ulysse, le héros grec de la guerre de Troie, qui lui avait mis 10 ans à retourner chez lui.
Cet été, par contre, on a un autre défi. On va en Grèce avec Homer 7. Il y a un biologiste sous-marin qui nous a contactés. Il a vu nos résultats aux diverses compétitions. Puis il nous a contactés pour emprunter notre sous-marin pour faire une expédition en Grèce d'environ 250 km entre l'île d'Ithaca et de Corfou. Il veut reproduire la 14e étape de l'Odyssée d'Ulysse en sous-marin à propulsion humaine. Pour ça, puisque Homer est un deux places, il va avoir besoin d'un second pilote. Fait que ça va être un membre de l'équipe qui va faire l'Odyssée avec lui. On va avoir besoin d'une équipe d'environ une douzaine de personnes pour s'il y a des bris mécaniques, bris électriques et tout, pour assurer la sécurité et tout. Fait que, on va être une douzaine d'étudiants qui vont aller en Grèce pour une période d'environ un mois effectuer le périple. Le gros défi, en fait, c'est que Homer a été conçu pour être dans des bassins. Donc, on n'a pas de problème de courant, de vagues ou tout ça. Là, dans la mer, c'est les courants, les fonds marins qui sont parfois jusqu'à 300 pieds de profond. Donc, s'il arrive un problème, le pilote a à sortir. Là, faut pas perdre le sous-marin au fond de la mer. Donc, c'est toutes des choses qu'on va devoir faire pour adapter le sous-marin pour les circonstances.
C'était Francis Baril, copilote du sous-marin Homer 7 et étudiant de troisième année de l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec. Vous avez mentionné, Hugues, tout à l'heure, un canot en béton. On est loin des canots traditionnels en écorce, n'est-ce pas?
Oui, il a fallu, Yannick, que je regarde de très près pour savoir que le canot en question était bien fait en béton. Il a même fallu que je le touche. Il était fait en béton,
Yannick. Oui, oui.
Alors, ce qui m'a intrigué dans le canot en béton, c'est que d'après moi, le béton, ça coule au fond de l'eau, et alors que le canot, normalement, lui, il doit flotter. Pour moi, jusqu'à maintenant, béton et canot, eh bien, en principe, ça n'allait pas ensemble. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la chose, selon Marie-Andrée Bardier, étudiante à l'ETS et aussi capitaine responsable du club étudiant Canot de béton.
C'est ce qui fait le défi technologique de la compétition. Donc, comme le canot et le béton ne vont pas ensemble, de rendre le béton un matériel qui est fait pour travailler en compression, de le rendre apte à travailler en tension pour en faire un canot, c'est notre défi qu'on essaie d'accomplir durant une année scolaire.
On a une autre image du canot, c'est très léger, ça se faufile partout sur les eaux, toutes sortes de eaux vives, eaux plates et tout ça, alors que le béton, en général, c'est lourd et ça coule vers le fond. Alors, comment vous faites pour marier les deux?
Premièrement, on fait du béton qui flotte. On a un béton qui est moins dense que l'eau, c'est-à-dire que si on prend un cylindre de notre mélange de béton puis qu'on le dépose dans un pot d'eau, il flotte à la surface. Non, faudrait pas faire des colonnes de pont avec ça, ça fonctionnerait pas bien. Deuxièmement, c'est certain que ce canot-là sert pas à faire la descente de rapide, mais on réussit à faire un canot qui flotte sur l'eau en béton léger.
Comment vous le faites, ce béton-là? Ça prend des matériaux particuliers parce qu'il y a autant de sortes de béton qu'il y a de bâtiments, en fait.
Un béton standard, c'est fait habituellement avec des matériaux cimentaires, principalement du ciment Portland, du sable, des granulats comme de la roche, puis de l'eau. Dans notre cas, pour faire notre béton léger, on remplace le sable puis la roche par de la microbille de verre, puis de la bille de verre recyclée, qui sont des matériaux très légers et relativement résistants. Puis ensuite, pour aller faire un béton qui est quand même résistant à tension et solide, on va utiliser du latex en complément avec l'eau.
C'est une recette maison ou c'est une technique qui est déjà éprouvée?
C'est une recette maison, en fait. Le mélange de béton du canoë et de l'ETS, c'est le résultat de plusieurs années de recherche. À toutes les années, on l'améliore. Puis aussi, à toutes les années, il faut le changer parce que les règlements de l'ASCE sont différents d'année en année. On a de nouvelles exigences, soit au niveau des matériaux recyclés, soit au niveau des proportions de matériaux cimentaires, au niveau de la granulométrie des différents matériaux.
Le fait de faire ça dans un club étudiant, est-ce que ça vous aide dans vos travaux ou c'est vos travaux qui vous aident à faire le canot?
En fait, faire partie d'un club étudiant, c'est vraiment un complément à notre baccalauréat parce que ça nous permet de vraiment appliquer les notions qu'on apprend à l'école dans quelque chose de super concret. Puis c'est un investissement de temps, puis on est obligé dans un club étudiant de se creuser la tête pour trouver des solutions à plein de si différents problèmes, puis ça nous permet de développer des capacités qu'on ne développe pas nécessairement dans nos cours. C'est vraiment un complément qui vaut la peine d'être fait. L'objectif, c'est vraiment de pousser la recherche au maximum puis de participer dans une activité qui nous permet d'aller à des compétitions. L'année dernière, on est allé à Buffalo, à la régionale américaine, où on a terminé premier avec une note parfaite de 100%. Ensuite, on est allé à la compétition canadienne, où on a aussi terminé premier. On a terminé l'année en allant en Alabama en juin à la compétition nationale américaine qui regroupe l'ensemble des gagnants des 22 conférences aux États-Unis. Là-bas, on a terminé deuxième.
Alors, être membre d'un club étudiant comme ça, Hugues, ça doit représenter
beaucoup, beaucoup d'heures de travail et de plaisir, j'imagine, mais ça ne doit pas être toujours facile à concilier avec les études.
Les études, pas toujours facile, Yannick. Il n'est pas rare qu'un étudiant passe en moyenne une vingtaine d'heures par semaine à son club étudiant, donc c'est beaucoup d'heures. Mais il y a quand même des bons côtés. Cela permet de voyager, de développer un réseau, d'apprendre à travailler en groupe. Et ça peut aussi aider même à trouver un emploi une fois les études terminées. On écoute Alan Carter, qui est professeur à l'ETS en génie de la construction, lui-même un ancien des clubs étudiants.
Les clubs étudiants, pour la majorité des clubs, c'est pour concevoir, construire, gérer un projet qui va servir à une compétition étudiante. Donc, ils vont vraiment se mesurer à d'autres universités, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs. À prime abord, c'est la raison d'être des clubs, c'est vraiment un niveau, il y a le niveau compétition. Mais on n'est pas obligé de participer à la compétition-là, il n'y a pas de points supplémentaires pour, dans les notes, ça n'apparaît pas sur le diplôme « a participé au club » ou quoi que ce soit. Par contre, tout le côté technique qu'ils vont chercher, tout le côté gestion de projet qu'ils vont chercher, travail d'équipe, que ce soit gestion des finances ou n'importe quoi, ça leur amène beaucoup plus de choses, en fait, une plus-value qu'ils ne vont pas nécessairement chercher dans les cours. C'est certain qu'on apprend des choses en plus, mais les clubs étudiants, on n'a pas de relâche au niveau des cours parce que tu es dans un club. C'est donc un plus, un surplus que tu vas faire. Donc, c'est des étudiants de bord qui aiment beaucoup ce qu'ils font parce que si tu n'aimes pas ça, tu n'iras pas te donner du travail de plus pour rien.
Mais est-ce que ça veut dire que ça reste quelque chose qui est formateur pour eux-mêmes ou éventuellement ça peut être reconnu quand on va sur le marché du travail? On va dire, moi, pendant 3 ans, j'ai travaillé sur le projet, par exemple, la motoneige silencieuse ou du sous-marin à pédales ou des choses comme ça.
C'est très valorisant pour le côté au travail, en fait, pour les gens qui se cherchent un emploi, nos étudiants qui sortent. Le fait qu'ils ont travaillé dans un club, c'est très vendeur. C'est extrêmement vendeur. Ces étudiants-là sont toujours les premiers placés. Ça, c'est un incontournable. On en a qui sont placés avant de finir, parce que justement, les commanditaires qui ont suivi un peu leur projet sont au courant de leur capacité d'ingénieur de ces étudiants-là, donc ils viennent les chercher. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de choses qui sortent de des projets étudiants comme ça, qui font vraiment avancer la science.
Donnez-moi des exemples.
Si je vais prendre, mettons, le canot de béton, tous les matériaux particuliers qu'on met dans le béton, en fait, la raison d'être de cette compétition-là, c'est vraiment faire avancer le niveau matériaux de ça. Okay? Et il y a le niveau structure aussi. Si je prends le sous-marin à propulsion humaine, il y a les pales qui s'alignent pour la vitesse et ces choses-là. Ça a fait avancer des choses. Au niveau de l'hydrodynamisme aussi, ce qui est la même chose, les motoneiges qui ne polluent pas, etc., etc. Donc, c'est toutes des choses qui font vraiment avancer les sciences.
Est-ce que ça veut dire que ces éventuelles découvertes peuvent même éventuellement être brevetées et commercialisé en industrie?
C'est pas le but de ça. Okay? Les compétitions sont pas prévues pour ça. Mais il y a plusieurs des étudiants qui ont fait une partie club qui finalement se mettent à faire des brevets, partir une entreprise, des choses comme ça.
Alors, ces journées où les universités québécoises, comme l'École de technologie supérieure, ouvraient leurs portes cette semaine, donc au grand public, ça s'inscrit, on l'a dit, dans le cadre des Journées du savoir de la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec.
Oui, Yannick, en imaginant ces Journées du savoir, la CREPUC, donc la conférence, voulait d'une part s'ouvrir au public, pour que le public comprenne comment ça se passe à l'intérieur des murs d'une université, mais c'était aussi, en fait, pour s'en faire un allié éventuellement dans ses discussions avec le gouvernement du Québec. Jean Vautier est directeur affaires publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi et il est aussi le président du comité organisateur des Journées du savoir.
Ce qu'on veut, c'est effectivement sensibiliser les gens, on veut que les gens réalisent l'importance des universités. Vous savez très bien que les gouvernements sont toujours très sensibles à cette chose, à la perception qu'ont les gens ou qu'a la population. En fait, la question qu'on avait posée aux gens, c'est le gouvernement avait priorisé effectivement l'investissement dans différentes activités économiques, culturelles ou autres au Québec, où est-ce que se placerait l'université? Eh bien, il y a uniquement 4% des gens qui considèrent que l'université, c'est important d'investir massivement. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait un problème, effectivement, à ce niveau-là et qu'il fallait faire en sorte que les gens soient un petit peu plus sensibilisés à l'importance des universités. Alors, c'est un peu, évidemment, l'objectif qu'on se donne par rapport à cette démarche-là. Les universités sont présentes dans leur milieu, font leur travail, en fait, de formation, de recherche, d'engagement, mais je pense que c'est pas assez senti dans la population. Et on a aussi cette responsabilité-là de passer ce message-là et de mentionner aux gens. Et là, je ne veux pas dire qu'il faut que tout le monde se retrouve à l'intérieur des universités. Et c'est pas un exercice de recrutement. Notre objectif n'est pas de recruter des étudiants. Notre objectif, c'est de sensibiliser la population en général à l'importance du rôle que jouent les universités dans le développement du Québec.
Cette semaine, dans les médias, sont sortis des chiffres sur les déficits accumulés du réseau universitaire. On parle de plus de 400 millions de dollars. Est-ce que c'est un moyen pour vous, ces Journées du savoir, de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il allonge des sous pour réduire ce déficit?
Bon, effectivement, ça fait quand même plusieurs années que les recteurs de l'ensemble des établissements, en fait, de tous les universités, de tous les établissements universitaires au Québec, sous le chapeau de la CREPUC, mentionnent qu'il y a un manque à gagner de 400 millions par année si on veut uniquement atteindre la moyenne au niveau du Canada. Alors, on ne parle pas évidemment d'être les mieux financiers, on parle uniquement de la moyenne canadienne. Il manque au minimum 400 millions de dollars. Le déficit accumulé des universités en est la preuve. Alors, évidemment, on souhaite bien sûr que le gouvernement soit sensibilisé. Et si la population est sensibilisée au rôle important que doit jouer les universités dans le développement. Alors, les gouvernements devraient normalement l'être également. Alors, c'est notre objectif. Il y a des démarches, évidemment, politiques qui se font, mais il faut faire également une démarche auprès de la population pour que les gens réalisent que c'est important d'investir dans les universités.
Jean Vautier est directeur des affaires publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il était le président du comité organisateur des Journées du savoir.
Quelques précisions, Yannick, avant de terminer. Le déficit accumulé des universités du Québec était de 455 millions de dollars en 2008. Les mêmes universités qui demandent chaque année 400 millions de plus pour pouvoir simplement suivre le rythme au niveau canadien.
Merci beaucoup, Hugues. L'auteur de la semaine, il s'appelle Alfred Spira, il est médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Paris 11 et je le joins dans notre studio de Paris. Bonjour docteur Spira.
Bonjour monsieur.
Alors docteur Spira, vous êtes le co-auteur avec vos deux collègues Bernard Gégou et Pierre Jouannet du livre « La fertilité est-elle en danger ?» C'est paru aux éditions La Découverte. Cette question, docteur Spira, revient dans l'actualité. Hein. Depuis, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 ans, les hommes produisent moins de spermatozoïdes, la pollution fait baisser la fertilité des individus, les couples doivent de plus en plus avoir recours à la médecine pour avoir des enfants. Est-ce que, vraiment, très globalement, il y a bel et bien un vrai problème de fertilité, bien documenté scientifiquement? Est-ce qu'il y a une détérioration avérée de la santé reproductive humaine, docteur Spira?
Alors, il y a une détérioration qui maintenant est admise de la production de spermatozoïdes. Quelques papiers étaient parus dans la deuxième moitié du XXe siècle, entre 1950 et 1990, signalant que par rapport à la production de spermatozoïdes moyenne qu'on estimait à environ 100 millions de spermatozoïdes par millilitre.
Oui, c'est le fameux chiffre de base, de référence, oui.
Absolument, il pouvait y avoir une baisse. Et en 1992, une équipe danoise a publié ce que nous, on appelle dans notre jargon une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse d'une soixantaine de publications, et qui montrait clairement qu'entre la fin des années 40 et donc la fin des années 80, la production spermatique moyenne avait baissé de 40 à 50%.
C'est beaucoup.
Oui, c'est énorme. Ça veut dire que cette publication qui maintenant a été confirmée par différentes études dans plusieurs pays, des pays du Nord malheureusement seulement, on pourra reparler des pays du Sud, ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune homme de 20 ans produit à peu près deux fois moins de spermatozoïdes que n'en produisait son grand-père au même âge.
Vous dites aujourd'hui, ça a été confirmé, ces études-là. Il y a les SECOS en France, hein, les centres d'études du sperme. Là.
Alors, les SECOS en France ont publié quelques années après une étude qui porte sur la période 1973-1994, montrant une baisse régulière sur une vingtaine d'années d'environ entre 1,5 et 2 % par an. Donc, au total, sur une vingtaine d'années, une baisse de presque la moitié. Et puis, ça a été confirmé dans d'autres pays, au Danemark, en Finlande, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre et en Écosse, aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis, en Grèce, en Espagne.
Et ça, indépendamment du fait qu'il y a des variations géographiques, des variations saisonnières, enfin, c'est assez compliqué à estimer hein, ce chiffre-là, quand même.
Oui, alors, effectivement, il existe des variations géographiques importantes. Par exemple, pour ne situer que le cas de la France, la baisse existe et est avérée à Paris, Mais par contre, à Toulouse, on n'a pas mis en évidence de Basse. Mais il se trouve qu'à Toulouse, la production moyenne de spermatozoïdes est moins importante qu'à Paris. Alors, Toulouse est au milieu d'une région agricole. Aux États-Unis, on a observé la même chose. Sur la côte est, la Basse est moins importante qu'elle n'a été dans le Minnesota, par exemple, qui est une région très agricole, vous le savez, et où la Basse est plus importante. Donc, il existe des variations géographiques.
Et puis, des variations saisonnières. En hiver, les hommes produisent plus de spermatozoïdes avec le pic vers le 14 février.
C'est curieux. Oui, le jour de la Saint-Valentin, c'est vraiment complètement par hasard. Mais effectivement, dans l'hémisphère nord, alors dans l'hémisphère sud, la saison est inversée. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu dans les espèces animales. Et finalement, nous ne sommes là que des mammifères comme les autres. La période la plus propice à la fécondation se situe aux alentours du mois de juin-juillet, favorisant les naissances qui vont survenir tout à fait au tout début du printemps de l'année qui suit. Et on sait que dans toutes les espèces animales, les naissances se font au début du printemps, qui est la période la plus favorable, puisqu'ensuite le petit peut être élevé dans les meilleures conditions.
Alors donc, déclin de la production des spermatozoïdes, ça c'est une cause entendue aujourd'hui. Oui, il y a bel et bien déclin, je pense que les scientifiques s'entendent. Il y a un autre dossier qui est extrêmement intéressant dans le domaine de la reproduction, c'est le dossier de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Le mot est compliqué, il faut peut-être l'expliquer, mais vous consacrez tout un chapitre à ce dossier-là, aux perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord ?
Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances qui sont étrangères à l'organisme. Nous, on appelle ça des substances exogènes dans notre jargon et qui sont responsables d'effets sur la santé d'un organisme sain ou sur sa descendance. Et ça, c'est très important de savoir que ça peut se transmettre à la deuxième ou à la troisième génération du fait de changements que suscite ce produit, cette substance, dans la fonction hormonale, la fonction endocrine, le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est ce qui régule la production d'hormones par notre organisme. Et donc, il y a des substances extérieures qui peuvent perturber la production d'hormones ou qui peuvent perturber les effets de la production d'hormones. Par exemple, chez l'homme, la production de spermatozoïdes, mais chez la femme, la production d'ovocytes, d'œufs, et sous la dépendance d'hormones qui sont produites par une glande qui est à la base du cerveau, qu'on appelle l'hypophyse.
Et on sait que tout le système de reproduction masculin-féminin est vraiment un système qui est très sous contrôle hormonal. Hein. C'est absolument extraordinaire. Oui.
Absolument. Donc, c'est sous contrôle et c'est un contrôle très 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 compliqué, donc c'est un système très fragile et qui peut être perturbé par des substances exogènes, mais qui peut être perturbé aussi par des modifications de comportement, par une contrariété, par le stress ou par la survenue d'une maladie. Donc là, ce dont il s'agit, c'est de substances, en particulier de substances chimiques, qui perturbent le fonctionnement de ce système et dont on a fait l'hypothèse dès le 1993 exactement, deux auteurs, un Danois, Skakebæk, et un Écossais, Richard Sharp, ont fait l'hypothèse qu'il existait de telles substances. Et on a pu en montrer l'existence au laboratoire sur des cultures de cellules de testicules en particulier, chez des animaux de laboratoire, puis dans l'espèce humaine.
Alors ces perturbateurs endocriniens, donc c'est des substances chimiques, soit qui miment, soit qui interfèrent avec tout le système hormonal de l'organisme.
Je peux prendre une image, si vous voulez. La perturbation endocrinienne, ça fonctionne comme quand vous essayez d'ouvrir une serrure avec une mauvaise clé. Ça nous est à tous arrivé de se tromper de clé, d'avoir une clé qui entre dans la serrure, mais quand on tourne, la serrure ne s'ouvre pas. Et si on tourne un peu fort, on sait qu'on peut gripper la serrure. Elle ne va plus fonctionner du tout. Voilà, ça marche un peu comme ça.
Alors, ces perturbateurs, ces produits chimiques, donc, qui soit mime ou interfère avec les estrogènes, les androgènes, etc., le fonctionnement de la thyroïde, donc beaucoup de choses qui ont des relations avec notre système de reproduction. Il faut dire que c'est une famille de substances omniprésentes dans l'environnement et très, très nombreuses. Hein, les POP, les plastiques, les pesticides, c'est quelque chose d'omniprésent.
Oui, alors c'est quelque chose de très répandu, effectivement, dans notre environnement. Alors, il faut savoir d'abord qu'il s'agit de substances chimiques, mais pas forcément de substances chimiques artificielles. On a l'habitude de dire que le chimique, c'est ce qui est artificiel, oui, et c'est pas bon. Dans la nature, vous savez, il existe des choses qui sont pas bonnes. Vous savez, le curare, c'est
tout à fait naturel.
Absolument, et c'est pas très bon pour la santé. Oui. Alors, il existe des hormones naturelles, en particulier dans des plantes. Et par exemple, de façon surprenante, on a découvert, il y a maintenant une dizaine d'années, que le soja contient des œstrogènes végétaux, donc on appelle ça des phytoœstrogènes, et que ces œstrogènes peuvent perturber sur l'animal de laboratoire, en tout cas le fonctionnement du système hormonal. Mmh. Et puis il existe des substances chimiques synthétiques, donc artificielles, qu'on appelle les POPs, qui sont donc les polluants organiques persistants, excusez-moi.
Oui.
Ça, c'est les herbicides, les fongicides, les insecticides, tous les pesticides.
Le BPC les BPC, biphényl polychloré, le DDT, etc., etc.
Le DDT, par exemple, est un excellent exemple parce qu'il a été utilisé dans les pays dans lesquels sévissait le paludisme, en Europe en particulier. Je suppose que, oui, c'est aussi le cas en Amérique du Nord, peut-être pas au Canada, mais en tout cas dans les régions du sud des États-Unis, au Mexique. Il continue à être utilisé dans les pays d'endémie paludéenne, en particulier les pays d'Afrique. Alors, il a deux caractéristiques, trois, il est très très efficace pour détruire les moustiques et pour lutter contre le paludisme. D'autre part, c'est un perturbateur endocrinien, et d'autre part, comme beaucoup de ces POPs, il est très peu biodégradable, c'est-à-dire qu'il persiste dans l'environnement pendant des dizaines d'années. En France, par exemple, on peut trouver du DDT encore dans les eaux d'écoulement des champs, parce que des champs du sud de la France qui ont été irrigués de DDT il y a 50 ou 60 ans contiennent encore du DDT ou des produits de dégradation du DDT.
Et l'effet de ces POPs ou de ces perturbateurs endocriniens sur vraiment le système de reproduction humain, est-ce qu'aujourd'hui on le connaît bien, est-ce qu'on s'entend scientifiquement pour dire voilà si ça cause tel effet, ou c'est encore sujet à étude et à discussion peut-être?
Non, sur le DDT, il existe des choses extrêmement précises. On connaît le produit de dégradation du DDT qui porte un nom, le PP'5DE quelque chose.
Ça n'a pas l'air bon.
Peu importe.
Oui.
Et on sait exactement par quel... on a pu au laboratoire montrer exactement par quel mécanisme il intervient.
Alors, effet général donc sur le système de reproduction, on a quand même assez d'éléments actuellement pour dire oui, ces milliers de produits chimiques de toutes sortes, naturels ou non naturels, ont un effet sur la reproduction humaine. Alors je vais revenir à ma question du début, docteur Spira. Est-ce qu'effectivement notre capacité comme espèce humaine de se reproduire, est-ce qu'elle est vraiment menacée actuellement ?
Non, on ne peut absolument pas dire ça, parce que ce qui est menacé, c'est la production gamétique, la production de spermatozoïdes, peut-être la production d'ovocytes par la femme. Les perturbateurs endocriniens ont d'autres effets sur le système immunitaire ou des effets neurologiques.
Oui.
Mais en ce qui concerne la reproduction, on continue à produire des spermatozoïdes et suffisamment de spermatozoïdes pour se reproduire, pour faire des bébés. Et vous savez, notre reproduction, notre fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants que nous avons chacun ou dans nos couples, est sous la dépendance de notre production de spermatozoïdes, d'ovocytes, bien entendu, mais également sous la dépendance du contrôle qu'on exerce, en particulier par la contraception. On arrive à beaucoup mieux contrôler la reproduction qu'on ne le fait par les conséquences de phénomènes biologiques.
Mais vous dites quand même qu'il faut faire attention, il y a un principe de précaution, qu'il faut regarder cela de façon très précise. Qu'est-ce qu'on peut faire en quelques mots ?
Alors d'abord, il faut regarder ça de façon très précise parce que les spermatozoïdes, c'est un peu un observatoire de la santé publique. C'est une cellule très fragile. Mm-hmm. Et si on détériore nos spermatozoïdes, ça veut dire qu'il se passe quand même des choses qui peuvent se situer ailleurs aussi.
Oui.
Alors ce qu'il faut faire, il faut être raisonnable. Jusqu'à maintenant, on a produit des substances chimiques On considère qu'il y a 100 000 substances chimiques artificielles qui sont utilisées, qu'il y en a à peu près 3 000 qui ont été étudiées au laboratoire, donc on connaît bien les effets. Donc en Europe, on a mis au point une procédure qui s'appelle REACH, et qui est une procédure de test de l'ensemble des nouvelles molécules qui sont produites en ce qui concerne leurs effets potentiels sur la reproduction ou sur la survenue de cancer. Je ne doute pas, vous êtes au Canada et vous êtes en dehors de REACH, mais il n'y a aucun doute pour moi que dans les 10 ans qui viennent, ne serait-ce que la concurrence internationale va faire qu'en Europe, en Amérique du Nord ou
en Asie,
on fera la même chose. Ensuite, en attendant qu'on ait testé toutes ces substances, il faut faire attention. Par exemple, on peut donner des conseils aux femmes enceintes ou aux femmes qui allaitent, qui sont de ne pas utiliser de cosmétiques et de lotions quand elles n'en ont pas besoin, d'éviter d'utiliser des parfums parce qu'il y a des parabènes qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Il ne faut pas utiliser pendant la grossesse ou pendant l'allaitement de colorants pour les cheveux, éviter d'utiliser des sprays, éviter d'utiliser des peintures qui sèchent très rapidement. Vous savez, ces peintures qui, à l'eau et qui sèchent en quelques heures, elles sont très riches en produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Et puis, en ce qui concerne les bébés, il faut laver les objets, les jouets qu'utilisent les bébés avec de l'eau. C'est pas la peine d'utiliser des produits ultra nettoyants, ultra puissants, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils contiennent. Il faut essayer d'éviter d'utiliser des lotions ou des cosmétiques dont on n'a pas besoin. Il est beaucoup plus simple de laver des bébés à l'eau et au savon qu'avec des lingettes qui peuvent contenir des produits qu'on ne connaît pas bien. Il faut utiliser des jouets sans phtalates. Les phtalates, c'est ce qui permet d'assouplir les matières plastiques. Et ces phtalates, on a montré maintenant que c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Voilà. En toute chose, il faut être raisonnable. Alors, reste une question que vous n'avez pas posée, qui est celle des biberons. Puisque,
oui, la fameuse. On a eu ça ici, oui.
Voilà, alors le Canada a interdit les biberons contenant des bisphénols A, les biberons plastiques durs. C'est une mesure de précaution. Qui est sûrement extrêmement sage. De mon point de vue de scientifique, elle est peut-être un tout petit peu radicale et un tout petit peu excessive parce que l'effet des bisphénols A sur la reproduction n'a pas été démontré dans l'espèce humaine. Il a été démontré dans des modèles animaux ou des modèles in vitro. Mais c'est une application stricte du principe de précaution.
Et on a vu que, d'ailleurs, j'ai vu dans votre livre que les crèches de Paris, désormais, n'auront plus de biberons bisphénol A grâce au Canada.
Absolument, absolument. Le maire de Paris, qui est un homme qui veut protéger la santé de sa population, a appliqué la même stratégie que celle qui a été appliquée au Canada.
Eh bien, docteur Spira, je vous remercie beaucoup d'être venu en studio à Paris pour parler de votre livre. Donc, vous co-signez avec Bernard Gégou et Pierre Jouannet, deux de vos collègues d'ailleurs spécialisés en biologie de la reproduction et depuis de très nombreuses années. Le livre s'appelle « La fertilité est-elle en danger ?» et c'est publié aux éditions La Découverte. Docteur Alfred Spira, je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe, avec la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Nathalie Vigneault. Journaliste au site internet Lily Marin, chroniqueur Laurent Drissen. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et de nous revenir la semaine prochaine, même poste, même heure, pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.